Bien, si vous en référez à mamie, allez vers elle, elle vous dira ce qu'est l'eschatologie, puisqu'elle est étudiante là-bas aussi. Voilà. Donc, si vous avez bien compris, je vais venir ce dimanche, le dimanche prochain, et puis samedi, je vais venir aussi pour un temps d'enseignement sur les dons du Saint-Esprit. Alors, on ne va pas encore manger, mais si je vous donne l'image d'un sandwich, le meilleur, c'est ce qui est au milieu. Donc, venez samedi. J'aimerais aujourd'hui introduire ce temps où nous allons comprendre la nécessité d'avoir des dons spirituels dans l'Église. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12 que le Saint-Esprit distribue à chacun comme il veut. Et ce chacun, ce n'est pas chacun des pasteurs ou chacun des ministères, mais c'est chacun des membres de l'Église. Et en ce sens-là, chacun, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Donc on a cette entrée dans cette vie de l'esprit, qui que nous soyons, dans la mesure où nous avons accepté de faire la paix avec Dieu et nous sommes une nouvelle créature. Et je pense que c'est important parce que nous avons besoin aussi de voir la manifestation de Dieu dans nos églises, aussi au travers des dons spirituels. J'espère que ça vous intéresse toujours de voir des dons manifestes de l'esprit dans l'église, par des miracles, par des guérisons, par des conversions, par des paroles de connaissance, de prophétie, toutes ces choses-là qui se trouvent dans les Écritures. L'idée de Dieu, c'est qu'elles se trouvent aussi dans les églises. Et c'est dans ce sens-là que nous allons vivre ces 8 jours ensemble. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de pourquoi vouloir les dons de l'esprit, parce qu'il faut aussi que nos motivations soient bonnes. Et si nos motivations sont bonnes, eh bien je pense qu'il n'y a plus du tout de frein à ce que le Saint-Esprit soit répandu au milieu de nous, au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Vous êtes d'accord? Alors, c'est bien que des chrétiens dans une église vivent la vie de l'esprit d'une façon quotidienne, dans la vie de tous les jours, parce que cela va ouvrir des perspectives à l'Église, à l'ensemble des chrétiens, quand nous nous réunissons le dimanche, ou bien quand nous avons une réunion de prière, ou bien quand nous avons une rencontre d'études bibliques, ou même quand nous nous rencontrons dans les maisons pour des groupes de maisons, nous croyons que la vie de l'Esprit est aussi présente et qu'elle n'est pas réservée à un moment de louange pendant le culte du dimanche, mais qu'elle est aussi présente. Par contre, si ces mêmes chrétiens peinent à développer la vie de l'esprit dans leur propre vie, eh bien, ça sera plus difficile pour l'équipe de louange de nous amener à rencontrer Dieu, parce qu'il devrait nous tirer, un petit peu comme une voiture qui est arrêtée, qu'on doit pousser pour recharger ses batteries. C'est la même chose dans un groupe de prière, dans une étude biblique et dans le groupe de maison. Si les chrétiens, jour après jour, délaissent cette vie de l'esprit, mais ça sera difficile pour, d'une façon, allez, magique, retrouver cette vie de l'esprit comme si Dieu était tout le temps là. Il est tout le temps là, mais nous avons besoin aussi de peut-être retrouver les bases de cette vie de l'esprit, et c'est ce que j'aimerais vous laisser ce matin. Je me suis marié il y a bientôt 35 ans. Oui. Merci, ça. Et le jour de mon mariage, ah ben, je me suis préparé. Je me suis lavé 2 fois. J'ai pris des nouveaux habits que j'avais achetés. J'ai mis du parfum que je trouvais extraordinaire. Je voulais être le plus bel homme de la journée. J'étais chez le coiffeur aussi. Et puis, je me suis bien préparé physiquement. Mais je me suis aussi préparé spirituellement. Je me suis dit, mais ça ne sert à rien de vivre une telle journée de fête seulement avec un beau costume. Et le matin de mon mariage, j'ai prié pour ma future épouse. J'ai prié pour préparer ce temps. J'ai prié pour que les gens qui entendraient la prédication puissent être touchés par l'amour que Dieu nous manifeste et que ce soit aussi un tremplin pour eux, dans leur couple, de pouvoir se réjouir d'être ensemble, pouvoir se pardonner, se réconcilier, continuer à vivre. Et ce temps, je n'ai pas simplement passé pour pouvoir prier pour les gens, mais aussi pour qu'on puisse entrer dans la présence de Dieu. Parce que ce serait dommage que le jour de son mariage, tous soient invités sauf Dieu. Et j'ai donc invité Dieu. Et j'ai passé du temps dans la prière, tout seul, à préparer ces moments. Alors pourquoi je vous raconte ça? Pas parce que vous me dites, oh, déjà 35 ans. Mais j'aimerais vous dire que le culte du dimanche, c'est la même chose. Une réunion de prière, une rencontre de maison, c'est la même chose que le mariage. C'est-à-dire que je suis appelé à me préparer pour ce temps. Parce que non seulement je vais rencontrer des frères et sœurs, mais je vais aussi rencontrer Dieu. Et je veux me préparer. Alors je ne veux pas de nouveau me laver deux fois, aller chez le coiffeur pour tous les dimanches. Vous comprenez l'idée ? Mais je suis appelé à me préparer. Puis j'aimerais vous poser une question. Voilà, je me pose à moi, mais en même temps que je me la pose, je vous la pose. Et si spontanément, régulièrement, chaque fois que j'ai une réunion dans le cadre de l'Église, je la prépare dans la prière et que je me rends disponible pour que le Saint-Esprit puisse aussi se manifester dans cette rencontre au travers de moi. Vous voyez l'idée ? Alors moi-même, pour être honnête, je ne le fais pas toujours. Je l'ai fait aujourd'hui. Je le devais. Mais ce n'est pas un culte personnel seulement quand je passe du temps le dimanche matin. Ce n'est pas simplement pour que Dieu puisse m'utiliser dans ce culte. Parce que ce serait assez orgueilleux, ce serait assez restrictif si je demandais à Dieu, « Seigneur, donne-moi de pouvoir être utile dans l'Église ce matin. » Mais ma prière, c'est aussi que chaque personne qui vienne puisse développer leurs dons, puisse être présente non seulement pour écouter, recevoir, être bénie, mais aussi pour bénir, aussi pour manifester les dons de l'Esprit, pour qu'ensemble on puisse vivre un culte à la gloire de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte si chacun de nous passions un moment chaque dimanche dans le lieu secret de notre chambre pour les cultes, pour être disponible, pour que chacun soit disponible, que nos cultes seraient différents? J'ai un attel. Et parfois, il est déchargé. Ça vous arrive aussi. Et puis, j'arrive à certains moments dans la journée où je dois recharger le attel, mais encore l'utiliser. Et c'est vrai que ça prend du temps. Eh bien, des fois, notre foi ou notre vie d'église, elle est un petit peu comme ce smartphone. Il est déchargé. Et on croit qu'en venant à l'Église, on peut nous pluguer sur Dieu et tout d'un coup, on est à 100%. Eh bien non, si je veux que je sois à 100%, il faut que je recharge mon attel avant. Vous êtes d'accord? Rechargeons-nous avant de venir au culte. Ne croyons pas que le culte, c'est le lieu où on va se recharger spirituellement. Pour vous recharger, nous nous rechargeons spirituellement dans notre culte personnel, dans la présence de Dieu. Et je crois que c'est vraiment important. Est-ce que vous vous rendez compte que ce serait assez fantastique que nos groupes de maison soient comme ça dynamisés parce que la vie de l'Esprit, elle est présente, parce qu'on a préparé ces cultes. Moi, j'y crois. Et je crois que vous y croyez aussi. C'est un petit peu la même chose qu'un athlète. Un athlète, il va se préparer avant pour courir. Il ne va pas partir à froid en disant « de toute façon, je suis le meilleur, je vais gagner la course ». Il faut qu'il se prépare mentalement, physiquement, qu'il fasse quelques exercices avant. On pourrait se dire « mais il se fatigue ». Non, il s'échauffe, il se prépare. Et quand il court, il donne le meilleur de lui-même. Nous sommes des athlètes. Nous sommes aussi appelés à courir pour gagner la course. Et la course, ça s'appelle le culte. Et si nous nous préparons pour vivre ce culte, alors des choses différentes peuvent se changer, y changer. Dans la Bible, le Saint-Esprit est directement lié à la vie de l'Église. Et c'est important de considérer ces choses. Et je vous propose d'ouvrir dans la Bible avec moi 1 Corinthiens 14. Mais avant, imaginez que 1 Corinthiens 14, ce n'est pas vraiment le passage que j'aimerais vous donner tout de suite, parce que 1 Corinthiens 14, c'est le troisième chapitre des dons du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens. Et en 1 Corinthiens 12, nous avons... Alors, on était un petit peu trop vite là, il faudrait revenir deux slides en arrière, encore une, voilà. En 1 Corinthiens 12, il nous a parlé des dons du Saint-Esprit, qui sont au nombre de 9. Et vous les connaissez, je pense, par cœur, vous pouvez les lire aussi. Vous avez le don de sagesse, le don de connaissance, le don de foi, le don de, les dons des guérisons, hein, puisque dans la Bible, ce don est, il y a des dons de guérison. Un don de miracle, un don de prophétie, un don de discernement des esprits, un don des langues et un don d'interprétation des langues. Vous les connaissez et la question c'est est-ce que vous les vivez ? Et l'autre question c'est est-ce que vous désirez les vivre ? Et je pense que si on désire les vivre, alors on est tout attentif à ce que Dieu veut nous dire ces temps-ci, durant ces deux semaines, parce que Dieu veut vraiment nous communiquer ses dons. Puis dans 1 Corinthiens 14, je saute un chapitre, il nous explique, Paul, comment vivre ses dons dans l'église locale. Donc le verset 12, le chapitre 12, c'est la liste des dons, et le verset 14, c'est l'application de ces dons dans l'église locale. Et vous me direz, il manque un verset, un chapitre. C'est celui du milieu, c'est le meilleur. C'est 1 Corinthiens 13. Et 1 Corinthiens 13 nous apprend dans quelle attitude nous devons avoir quand nous vivons les dons spirituels dans l'Église. Et ces trois chapitres qui sont ensemble, ces trois chapitres qui forment comme un livre dans le livre. Et je suis désolé de vous le dire, mais 1 Corinthiens 13, ce n'est pas le chapitre des amoureux. Que l'on va donner dans le cadre d'un mariage. On peut le faire, il n'y a aucun souci. Si le jour de votre mariage, vous avez demandé qu'on mette 1 Corinthiens 13 sur votre faire-part, il n'y a pas de problème. On peut comme ça détourner des versets de la Bible selon son bon plaisir. Par contre, ce qui est important dans la lecture de la Bible, c'est de comprendre la première idée de l'auteur concernant ce chapitre. Et la première idée de Paul, quand il a écrit 1 Corinthiens 13, c'était de se dire « Je peux avoir tous les dons du monde. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Et il va développer cette dimension d'attitude pour exercer les dons spirituels et pour les vivre dans l'Église. Pas de jalousie, pas d'orgueil quand Dieu distribue ses dons dans l'Église. Mais un amour vrai, un amour authentique, un amour spirituel. Et moi, ça me donne envie d'aller plus loin pour dire, « Seigneur, donne-moi ces choses-là. » Alors, pourquoi Dieu il a décidé qu'on se rencontre comme ça dans des cultes ? Vous êtes déjà posé la question, pourquoi vous venez au culte ? Franchement, pourquoi vous êtes venu ce matin ? Je vais d'abord vous dire pourquoi vous n'êtes pas venu. Enfin, pourquoi vous êtes là, mais pour la raison pour laquelle, la mauvaise raison pour laquelle on pourrait venir. Alors, on ne vient pas à l'église en touriste. Un spectacle qui va nous divertir. Ah, c'est un prédicateur qui est rigolo, donc on va regarder, on va aller l'écouter. Et qui parfois peut parfois aussi nous remettre en question. Mais regardez comme les chaises, elles sont disposées. Rassurez-vous, toutes les églises font la même chose. On est disposé comme si on allait regarder un spectacle et comme si tout ce qui allait être vécu dans le culte se passe devant, ici, et rien de l'autre côté. On a la sono, on a la technique, un spectacle. Est-ce que vous êtes venu ce matin à un spectacle ? J'espère pas. Puis en gardant cette même disposition des chaises, on pourrait dire, on vient pas à l'église pour venir à l'école. Ouf. Mais une école qui va nous enseigner les principes de Dieu, qui va nous apprendre à comment nous comporter dans la vie, un lieu où on peut entendre des choses, où on peut apprendre, mais où on ne s'implique pas forcément. Les cancres sont dans les écoles, mais sont parfois aussi dans les églises. Ils écoutent, mais ils ne retiennent pas. C'est un lieu où la connaissance part que de l'enseignant vers ses élèves, que du pasteur vers les chrétiens. Et ça, ce n'est pas pour ça que Dieu nous a appelés à l'Église. On vient non plus pas à l'Église comme si on venait à un centre socio-culturel chrétien pour se rencontrer, pour lier amitié, pour faire de nouveaux contacts et développer des projets entre nous. Non, l'Église, ce n'est pas un centre socio-culturel chrétien. Enfin, on ne vient pas à l'Église comme si c'était un hôpital. Il n'y a pas de lit ici, vous voyez. Pour soigner nos blessures, pour parler de nos problèmes, pour nous faire du bien, pour qu'on s'occupe de nous. Alors bien sûr, on peut venir au culte pour toutes ces raisons. Et vous êtes déjà venu au culte pour ces raisons-là, et c'est très bien. Mais la première raison pour laquelle nous venons au culte, c'est ce que nous allons lire dans 1 Corinthiens 14, c'est pour nous édifier les uns les autres. Et ces deux parties de cette phrase sont essentielles. Premièrement, être édifié. Et puis après, les uns les autres. Ça veut dire que ce n'est pas que moi, en tant que pasteur, qui vais vous édifier, mais qu'il va y avoir comme une multitude d'édifications ensemble pour que tout le monde puisse avoir sa place, je dirais à jouer, mais son rôle, ses fonctions dans l'Église, pour qu'ensemble on puisse vivre un culte où le Saint-Esprit peut communiquer d'une façon, peut communiquer d'une autre. J'ai connu une Église où il y avait une seule personne qui avait le don de prophétie. C'est bien et c'est triste parce que les autres se disaient « la place est déjà occupée ». Il y a déjà une personne qui prophétise, donc moi j'ai... Voilà. Mais quand on a une église de 1000 personnes, on fait comment ? Chacun est appelé à édifier chacun. Alors, dans le chapitre 14, on va y arriver, de 1 Corinthiens, vous trépignez d'impatience d'ouvrir votre Bible, je le vois, on y trouve 7 fois le verbe « s'édifier » et ses dérivés. Alors, que veut dire d'abord le verbe « s'édifier » ? Ça veut s'édifier les uns les autres. Ça veut dire relever ceux qui sont faibles. Mais pas simplement moi en tant que pasteur qui vais relever l'un d'entre vous, mais l'un et l'autre. C'est ensemble qu'on vit les choses. C'est encourager ceux qui en ont besoin. C'est fortifier ceux qui sont en peine. C'est construire ensemble l'Église. Bâtir le même édifice selon les qualifications que Dieu nous a données, ça veut dire s'édifier. Et donc le culte, c'est une sorte de construction que l'on fait chaque jour, chaque dimanche, où on arrive et chacun de nous est une brique. On a dit tout à l'heure avec Jean-Paul une pierre vivante. Donc c'est bien de chanter, mais il faut qu'on puisse se mettre les uns à côté des autres pour former quelque chose. Et au début du culte, je vais un petit peu vous faire rire, mais on a un tas de pierres. On a un tas de pierres, c'est tout. Un tas. Et voilà que le culte va s'organiser et chaque pierre va trouver sa place. Et on va construire ensemble quelque chose d'unique, de particulier. On va vivre l'Église. Et on ne va pas pouvoir refaire ça, la même chose, la semaine suivante, parce que chaque fois, Dieu va parler d'une façon différente et chaque fois, Dieu peut utiliser l'un comme l'autre. Alors, si vous êtes ici, c'est que vous êtes une pierre. Alors, permettez-moi de vous poser 3 questions. Quelles sont vos qualifications dans l'Église ? Pouf. Quel est votre service dans l'Église ? Quel don le Saint-Esprit vous a-t-il donné ? Parce que je crois que 1 Corinthiens 12, 11 dit la vérité quand il dit que l'Esprit donne à chacun en particulier comme il veut. Comment vous comprenez le mot « chacun » ? Ben moi, je comprends « chacun ». Le Saint-Esprit donne à chacun, comme le Saint-Esprit le désire, des dons spirituels. Et c'est comme si on arrivait en tas dans l'Église, puis on se disait « Ah ben, quel bon culte ! On a bien vécu en tas !» Mais il y a une idée derrière, dans la pensée de Dieu, qui est qu'on doit se construire ensemble, qu'on doit s'édifier, qu'on doit travailler les uns les autres. Et votre présence dans cette communauté n'est pas anodine. Vous avez une place, et une place de choix. Faut-il la connaître ? Et une fois qu'on la connaît, la mettre en avant. Et je vous proposerai justement samedi, de connaître un petit peu quels sont les dons que Dieu a à disposition pour vous et dans un temps de prière et de recueillement, chercher la face de Dieu pour savoir lequel ou lesquels de ces dons Dieu désire vous bénir pour ensuite être un objet d'édification pour l'Église. Vous me suivez toujours ? Parfait. Alors on va commencer par le verset 3. Dans le 1 Corinthiens 14. Et voici ce qu'il est dit. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Il y a, dans le cadre des dons spirituels, des dons du Saint-Esprit, une volonté divine que le bénéfice de ces dons encourage toute l'Église. Et ici, il est parlé de celui qui a le don de prophétie et qu'il va édifier les hommes. Et quand on parle homme dans le Nouveau Testament, il faut comprendre homme et femme et enfant. Le verset 4 continue ceci, le verset suivant, il nous dit ceci. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Et le parler en langue, on verra la différence plus loin, mais beaucoup plus profondément samedi, quelle différence il y a entre le parler en langue et le don des langues. Mais le parler en langue, elle n'offre pas de perspective d'édifier l'autre, puisqu'elle édifie que la personne qui parle, et pas du tout ceux qui entendent. Et ainsi, c'est important de considérer que ce que je dois vivre dans le cadre de l'Église, c'est pour édifier les autres. Il y en a qui font leur culte personnel à l'Église. Ils n'ont pas eu le temps de le faire le matin. Ils disent « Ah oh, Seigneur, maintenant que j'ai le temps, ben, je vais prier. » Et puis ils prient comme s'ils étaient chez eux, en priant pour leurs voisines, leurs petits chats, place de parc, etc. Non. Mais prière édifie mon prochain, édifie les chrétiens de l'Église. Et le verset 5 continue ce passage. Et Paul nous dit « Je veux que vous parliez tous en langue, mais je veux encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive, et on retrouve de nouveau, pour la troisième fois ce mot, édification. Là encore, on voit Paul insister sur le fait que l'important de la vie de l'Esprit dans notre communauté, c'est que l'Église soit pleinement édifiée. Sinon, ben, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le but de nos rencontres, c'est de nous édifier les uns les autres au travers des dons que Dieu nous a donnés. Et si je continue avec le verset 12, « De même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à les avoir en abondance. » Première chose, Paul insiste sur ce point, la raison essentielle de rechercher les dons spirituels, c'est de pouvoir les mettre au service de Dieu. C'est de pouvoir, dans l'Église, les vivre pour que toute l'Église soit édifiée. Parfois, on aimerait des dons de puissance pour que les gens focalisent leur regard sur nous. J'ai le don de guérison. Venez à moi, je vais prier pour vous, vous serez guéris. Il y a des gens qui font ça. Mais c'est triste parce que les dons servent à glorifier Dieu dans l'Église pour que l'Église soit édifiée. Et au-delà, pour que les gens qui sont sans Église puissent voir au travers de la puissance de Dieu manifestée dans l'Église que Dieu est un Dieu qui tient ses promesses, que Dieu est un Dieu qui vient à la rencontre de celui qui ne le connaît pas. Et le verset se termine en disant ceci, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à les avoir en abondance. Je crois que l'ennemi, il a, sans jeu de mots, un malin plaisir à nous faire vivre cette dimension de l'esprit avec trop d'humilité. Notre prière, c'est de dire, « Seigneur, si j'ai au moins un don, ça me suffira. Un seul petit don, s'il te plaît. » Et puis, si je lis ce passage, il est dit que si vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à les avoir en abondance. Qu'est-ce que c'est l'abondance ? C'est quand on a trop. C'est quand on a trop l'abondance. Et parfois, je regarde Dieu comme un Dieu misérable qui a juste un don à me donner. Et moi, je, Seigneur, si un don je le reçois, c'est déjà le ciel sur la terre. Mais la parole de Dieu, elle nous demande d'être gourmands. Et ce matin, soyons, ce matin et pour le reste de votre vie, soyez gourmands quant à l'onction de Dieu sur votre vie. Cherchez, non seulement en Église, mais aussi d'une façon individuelle, à avoir ces dons en abondance. Pour l'instant, c'est peut-être le désert, mais l'oasis est ce que Dieu désire nous donner. Verset 17, il est dit, « Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. » J'ai mis entre parenthèses « en priant en langue » puisque c'est le sujet de ce qu'il est dit au verset 15 et 16. « Mais l'autre n'est pas édifié. » Et je trouve intéressant. On peut faire de belles choses dans l'Église. Si je prie en langue, je rends, et la Bible le dit, d'excellentes actions de grâce. Donc je fais des choses excellentes. Qui a envie de faire des choses excellentes ? Moi. Mais je peux faire des choses excellentes dans l'Église sans que l'autre ne soit édifié. Et ce n'est pas ce que Dieu demande. Dieu dit, demande que les choses que je fais dans mon dans le culte en commun, puisse édifier les uns et les autres. Et je peux le faire dans ma voiture, je peux le faire dans mon lit, je peux le faire sous la douche, je peux le faire en me promenant, je peux le faire partout quand je suis seul. Mais si je suis dans le cadre de l'Église, à moins que ce soit un chant en langue, hein, et là c'est un petit peu différent, mais ça ne sert à rien que les autres vous entendent parler en langue si il n'y a pas une interprétation qui est donnée par la suite. Et c'est pourquoi on peut faire d'excellentes choses sans que l'autre ne soit édifié. Et c'est ce même thème qu'au verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui il peut le faire d'une façon très bien, mais personne ne va être édifié. Alors on comprend que la présence du Saint-Esprit en nous nous permet d'être sensibles et de ne pas faire forcément ce que nous voulons. D'ailleurs, c'est ce que dit Paul en Galates 5. Il dit « Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'Esprit pour pas que vous fassiez n'importe quoi, pour pas que vous fassiez ce que vous vouliez, mais que vous fassiez la volonté de Dieu. » Et ainsi, ce baptême du Saint-Esprit que vous avez reçu ou que vous allez recevoir, eh bien, nous permet d'être beaucoup plus sensibles aux manifestations de Dieu et d'être en phase avec ce qu'il désire pour l'Église. Alors, j'ai encore une question à vous poser. Aujourd'hui, je vais vous poser plein de questions. Comment ma présence au culte peut-elle édifier l'Église? Posez-vous cette question. Comment ma présence au culte peut-elle édifier l'Église? Et c'est une vraie question. Ce n'est pas une question juste pour faire joli dans la prédication, mais c'est une question essentielle. En quoi Dieu peut-il m'utiliser pour que l'Église soit bénie? Et ça nous remet en question peut-être notre comportement, notre façon de vivre les cultes, une façon de croire ce que les choses vont se passer. Et je ne sais peut-être pas. Et j'ai le droit de ne pas savoir. Les enseignants, je viens au culte depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, et je ne sais pas pourquoi, comment je peux être utilisé par Dieu dans le culte. Eh bien, le verset 26 vient un petit peu à notre secours. Il reprend cette même interrogation, sous-entendu que tous les chrétiens du monde, quelle que soit la génération, se posent les mêmes questions. Comment pouvons-nous être une personne qui va édifier l'Église pendant le culte? Et le verset 26 dit ceci, « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, chacun a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification ?» Et le sens de ce verset est le suivant. « Quoi que ce soit que vous fassiez quand vous rassemblez, vivez-le dans la perspective que tous les membres présents soient édifiés. » Donc je vais le redire parce que c'est important. Quoi que ce soit que vous fassiez quand vous rassemblez, vivez-le dans la perspective que tous les membres présents soient édifiés. Alors ça c'est bien. Et heureusement, l'apôtre Paul ne se contente pas de nous dire ces choses, mais il va les développer avec des actions très concrètes. Il va en donner 5. Il aurait pu donner 10, il aurait pu donner 25, parce que ce n'est pas une liste qui est terminée, hein. On peut l'ouvrir à plein de choses, mais c'est un tremplin pour les membres de l'Église, pour qu'on puisse partir à partir de ce verset 26 en disant « Effectivement, il y a des choses ». Et dans ce verset 26, il y a ce mot « chacun » qui est le mot le plus important de ce passage, parce que chacun, de nouveau, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est chacun de nous. Alors, voyons ensuite comment ce que Paul veut nous dire. Alors, que faire donc, frères, lorsque vous assemblez, chacun a-t-il un cantique? Donc, le cantique, alors dans vos Bibles, c'est écrit peut-être en psaume, effectivement, parce que le mot grec, c'est le mot psalmos, qui veut dire psaume, donc un chant. Ce texte veut dire que dans l'équipe de louanges, que je remercie au passage, ou dans l'assemblée, dans un temps de prière, eh bien, une personne, toi, moi, lui, elle, peut recevoir par le Saint-Esprit un chant en français qui va édifier l'Église. Attention, pas un chant qu'on aime bien et puis c'est notre refrain préféré, puis on l'impose à tout le monde, d'accord ? Mais un chant qui va permettre d'édifier l'Église. Et là, on est un petit peu perdu parce qu'on est tellement spectacle que quand l'équipe de louange, elle anime la louange puis elle nous fait entrer dans la louange, eh bien, c'est fermé des deux côtés. C'est fermé d'ici parce qu'on aimerait faire notre programme, nous, et puis c'est fermé de l'autre côté parce qu'on n'ose pas les déranger. Mais ce n'est pas ça que la Bible elle dit. La Bible elle dit, on ne vient pas écouter des gens chanter. On vient participer tous ensemble. Et si durant le culte, l'un d'entre vous reçoit un chant, eh bien, il peut le dire, soit haute voix si ça se passe comme ça, ou soit aller vers le responsable, le président ou le responsable de louange. Je dis, mais j'ai ce chant sur le cœur. Et puis vous le donnez, et puis vous le chantez, et puis ça fait du bien. Est-ce que vous avez déjà vécu ça ? Je vais passer au point suivant. Personne, parce qu'on est tellement psychorigide dans nos cultes qu'on met une, très suisse, hein, on met une place pour chaque chose, et puis si on vient déranger, ben on dérange. Mais non, la Bible, elle dit... Est-ce que vous avez un chant à disposition ? Est-ce que vous avez un chant là, un chant qui vous vient à l'esprit par le Saint-Esprit pour qu'on puisse le chanter ? Et ça nous met directement en contact avec Dieu en disant Seigneur, est-ce que j'ai quelque chose ? Et c'est cette attitude que nous avons besoin d'avoir. C'est-à-dire, quoi qu'il se passe dans le culte, je désire être en connexion avec Dieu, le Saint-Esprit, pour qu'il puisse me communiquer des choses pour que l'Église soit édifiée. Ça, c'est le peuple de Dieu. Alors, je continue. Que faire donc, frères, lorsque vous assemblez ? Chacun a-t-il un cantique ? Une instruction. Alors, vous voyez le mot instruction en grec, je l'ai mis pas pour montrer que je sais le grec, je ne sais pas trop, mais pour vous montrer que parfois le grec, il est très proche du français. Et là, c'est didaké qui se traduit par enseignement ou doctrine. Alors moi, en tant qu'enseignant, j'aime bien ces mots, enseignant, doctrine. Hein. Mais quand on dit, ben voilà, ça c'est que pour les prédicateurs, c'est que pour ceux qui vont prêcher, ou bien dans le cadre d'un groupe de maison, c'est que ceux qui vont donner l'étude biblique. Mais pas forcément. Il se peut très bien qu'il se passe des choses comme ça. Et c'est vrai que dans un culte, on attend que l'orateur soit inspiré de Dieu pour qu'on puisse être édifié dans ce qu'il va nous partager. On s'attend que la personne dans le groupe de maison qui va donner une étude biblique ou qui va animer un moment de partage puisse être remplie du Saint-Esprit pour qu'on puisse avoir la bonne direction. Mais il se peut aussi qu'une personne de l'Assemblée, toi, reçoive une parole d'enseignement pour l'édification de l'Église. Attention! Une parole, pas une prédication qui va durer trois quarts d'heure. Ça veut dire une pensée qui reçoit de Dieu, qui peut conclure, qui peut donner un élément qui n'était pas donné dans la prédication. Et quand on reçoit ça, le prédicateur il va dire « Mais de quoi il se mêle celui-là » Moi, j'ai passé 8 heures, 10 heures, 20 heures à préparer cette prédication. Puis il arrive, tout ça, avec ses grands chevaux en disant « t'as oublié ça dans ta prédication. » Il ne faut pas le dire comme ça, mais ça veut dire ça quelque part. Mais quelle joie de savoir que moi, en tant que pasteur, je ne suis pas seulement celui qui va vous dispenser la parole ce matin, mais que l'un ou l'une d'entre vous peut recevoir aussi une parole d'enseignement pour pouvoir étoffer ce que l'on a reçu. Est-ce que vous le vivez ? Ensuite, il nous est dit, lorsque vous assemblez, chacun a-t-il un cantique, une instruction, une révélation. Alors ce mot, on le connaît bien, c'est apocalypsis, hein, apocalypse, et ça a trait à l'eschatologie, donc les temps de la fin, la mort et les temps de la fin. Et ce mot est traduit dans nos Bibles par révélation ou manifestation. Et dans ce sens-là, on pense bien sûr à une révélation, au don de prophétie. Et puis ce don de prophétie, il est le thème phare dans ce chapitre, mais ça peut aussi être un don de connaissance, un don de révélation, un don de sagesse, quelque chose où Dieu parle à l'Église. Et nous en avons besoin. Je continue avec quelque chose qui est plus courant, qui est les langues. Chacun a-t-il une langue ? Alors c'est bien sûr ici le don des langues, et non pas le parler en langue, on y reviendra bien sûr samedi, qui est appelé à avoir une interprétation, qui va édifier l'Église, alors que le parler en langue, qui est un parler personnel, va édifier que la personne qui le lit, comme on l'a déjà vu. Et puis enfin, verset, le dernier point, une interprétation, dieru enoito, qui ne veut rien dire en français, mais qui veut dire que ce don d'interprétation, chacun peut avoir ce don d'interprétation. Si quelqu'un, d'une façon particulière, spontanée, par l'esprit, parle en langue et développe le don des langues, eh bien, il n'est pas obligé lui-même d'interpréter. Ça peut être une autre personne qui a ce don d'interprétation et qui va pouvoir expliquer à l'Église ce que Dieu dit au travers de cette langue et que l'Église soit édifiée. Et à la fin de son verset, Paul le dit très bien, que tout se fasse pour l'édification. Alors, vous devez me dire, ouais, c'est bon, on a compris. Ben, j'en suis pas si sûr. Parce que souvent, le prédicateur passe et puis le pli se refait dans nos vies, dans nos familles, dans nos couples, dans l'Église. Et puis on oublie ces choses-là. C'est pour ça que je veux vraiment insister ce matin en disant la recherche des dons spirituels, c'est pour l'édification. La recherche des dons spirituels, c'est ce qu'on a chanté ce matin. C'est « Me voici, je suis tout à toi ». Est-ce qu'on s'est rendu compte ce qu'on a chanté ? Eh bien, quand on est tout à Jésus, tout à Dieu, tout au Saint-Esprit, eh bien, il peut nous utiliser pour que nous puissions être un objet de bénédiction, d'édification pour les autres. Et si on ne le fait pas dans la perspective de 1 Corinthiens 13, on n'a rien compris, que tout se fasse avec amour pour l'édification de toute l'Église. Alors vous comprenez aussi l'importance de la personne qui préside le culte, ou bien en groupe de maison. Il faut aussi qu'il soit préparé à gérer toutes ces manifestations que l'Esprit pourrait vivre dans la rencontre. Des fois, on est un petit peu démuni. Et malheureusement, je dis que s'il y a une mauvaise gestion des dons spirituels, alors les dons spirituels vont être pauvres dans l'Église. Et plus il y a une bonne gestion des dons spirituels, plus il y aura une extension des dons du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, ça ne va pas vous surprendre, mais le don de présidence, parce qu'il y a une autre liste des dons spirituels qu'on trouve dans Romains 12, pardon, et une liste qui se trouve du verset 6 à 8. Et dans cette liste, il nous est dit qu'il y a un don qui s'appelle le don de présidence. Et à Yverdon, nous allons organiser une rencontre pour tous les présidents du culte et pour tous les responsables de groupes de maison pour qu'ils puissent comprendre ce qu'est la présidence, le don de présidence. Et on va prier pour eux pour qu'ils reçoivent le don de présidence. Même le président du conseil d'administration, il va venir et on va prier pour lui. Pour que les choses que nous fassions puissent édifier les autres. Pas avec nos propres forces, à la force de nos poignets ou de notre intelligence, mais grâce au don du Saint-Esprit qui se déverse librement sur nous et qui permet qu'on puisse être une source d'édification. J'arrive à ma conclusion. Suite à cette prédication, j'ai trois pensées très fortes pour vous dans mon cœur ce matin. J'aimerais la résumer, la première, qui se trouve ici. Recherchons à vivre la vie de l'Esprit dans notre quotidien. Vivons cette dimension de l'esprit dans notre culte personnel. Si je prends par exemple pour les personnes qui sont baptisées dans le Saint-Esprit et qui ont le parler en langue, est-ce qu'on prie en langue tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, juste à Pentecôte? Comment est-ce que je laisse la vie de l'esprit intégrer ma vie personnelle au quotidien? Puis deuxièmement, bien, si, comme il était dit en préambule, chacun de nous préparions la rencontre prochaine dans la prière, pour non seulement que les gens puissent être remplis de Dieu et animés par le Saint-Esprit, mais que moi aussi je le sois, et que tous ensemble on puisse non pas rester ce tas de pierres, mais qu'on puisse s'organiser pour être un temple spirituel digne de Dieu. C'est coûtant, ce deuxième point. Ça me coûte de me préparer à chaque rencontre pour que l'Église puisse être un lieu où le Saint-Esprit se manifeste. Et puis, en troisième point, ne venons pas au culte ou au groupe de maison dans une attitude du genre auditeur, spectateur qui vient chercher sa bénédiction. Mais venons-y plutôt en tant qu'acteur dans le culte, en participant activement dans l'amour à l'édification des frères et sœurs. Il y a un personnage dans la Bible que j'aime bien, c'est Barnabas, fils d'exhortation. Il encourageait. Si je vois quelqu'un qui est tout seul, je vais vers lui, vers elle, puis je dis, ah, est-ce que je peux te parler un petit moment? Est-ce que tu veux venir chez moi? Est-ce que tu veux manger avec moi? Ou bien juste une tape sur l'épaule. Je dis, ah, je t'apprécie beaucoup, mon frère, ma sœur. Des choses qui font partie des liens qui nous unissent les uns aux autres. Pas forcément être rempli de Dieu pour dire de grandes choses, des prophéties. On peut être rempli de Dieu et être rempli aussi de compassion, rempli de bienveillance, rempli de réalité. Comme on a prié pour cette famille endeuillée, on peut vivre aussi ça dans l'Église. Et on n'a pas besoin d'être endeuillé pour se rapprocher les uns des autres, pour dire, ben, je ne discute pas beaucoup avec toi, mais j'aimerais te dire que je t'apprécie. Puis j'aimerais juste prier avec toi un petit moment pour te bénir. Tu veux prier pour moi? Attends, mais j'ai fait quoi? J'ai un problème? Je ne suis pas malade. C'est non, mais j'aimerais te prier parce que je t'apprécie en tant que frère, en tant que sœur, et puis j'aimerais retisser les liens entre nous. Faites-le. Et puis, dernier point, aspirons aux dons spirituels. On a besoin de retrouver ce qui faisait la force des premiers chrétiens. C'est une vie de puissance manifestée par les dons spirituels dans l'Église, mais aussi en dehors de l'Église, dans toute cette dimension de l'évangélisation. Et cette formation, justement, de découvrir ses propres dons, que nous allons voir samedi, va non seulement nous faire connaître ce que la Bible nous enseigne sur ce sujet, mais aussi on va prier pour les recevoir. Parce qu'on ne va pas être dans une école où on apprend, on veut être dans la présence de Dieu, où Dieu donne ses dons, où Dieu remplit de son esprit, baptise de son esprit. C'est un des points essentiels de notre Église, l'Union des Églises de Réveil, en disant que Dieu, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise de son esprit. Et je pense que c'est important aussi qu'on puisse vivre ces choses-là. Et je vous encourage à y participer et à prier avant pour préparer cette rencontre pour que ce samedi, non seulement fasse la différence dans l'Église, mais fasse la différence dans votre vie aussi. Est-ce que vous êtes de ceux qui y contribuent? Moi, pour ma part, je veux en être. Je veux être de ceux qui se lèvent pour dire « Seigneur, utilise-moi, plus pour être béni, mais pour bénir les autres, plus pour être édifié, j'en ai aussi besoin, mais pour édifier les autres, et je laissais aux soins aux autres de pouvoir m'édifier dans le culte par un sourire, par une prière, par une parole de Dieu, par un don spirituel. » Alors j'aimerais conclure par ce verset biblique qu'on a déjà lu et qui mérite toute notre attention et notre réflexion. « De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification d'Église, que vous cherchiez à les avoir en abondance. Amen. Eh bien, on va s'arrêter et puis on va faire un moment de silence. Si tu peux remettre l'avant-dernière, la slide numéro 20, s'il te plaît. Voilà. Et alors que ces quatre points sont devant nous, devant nos yeux, interrogeons-nous et demandons au Seigneur, mais Seigneur, où est-ce que j'en suis ? Qu'est-ce que tu veux pour moi ? Et je vais pas faire d'appel parce que c'est pas forcément en nous levant que les choses vont changer pour ce qu'on veut faire aujourd'hui, mais je vais vous laisser ouvrir votre cœur. Et peut-être qu'il y a des carences, peut-être que tout va bien. Mais on va vivre peut-être pas forcément ces quatre points, mais en tout cas un ou deux, trois peut-être, en disant « Je veux changer, Seigneur. Je veux être celui qui édifie les autres. Je veux changer mes regards sur ma propre vie en les portant sur l'Église, en les portant sur toi. » Et j'aimerais te demander ce matin, Seigneur, de faire une œuvre nouvelle dans notre vie, qu'on soit un vieux chrétien, une vieille chrétienne, ou un nouveau converti, une nouvelle convertie. Ce n'est pas ça qui compte. L'essentiel, c'est les motivations de notre cœur. Et ce matin, ben, Dieu veut nous remplir de son amour, Dieu veut nous remplir de son esprit, et Dieu veut nous défier en disant, vous avez besoin de dons spirituels pour vous permettre de vous édifier les uns les autres. Alors, soyez gourmands ce matin et que vous ayez ces dons spirituels en abondance. Amen.